Guinée orientale. J'ai réduit totalement ce qui
se passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux types de maîtrise vivante, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous dans Parole aux auditeurs. Le premier sommet États-Unis d'Amérique Afrique a été organisé à Washington du 14 au 6 août dernier. En marge de ce forum, l'ONG internationale NED avait organisé un forum autour de la situation politique en Afrique. Les partis de la majorité et ceux de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile de la RDC, se sont rencontrés dans ces forums. Ils ont plaidé ensemble pour l'implication de tous dans la réussite du processus de démocratisation en RDC. Que proposez-vous pour que la classe politique congolaise puisse capitaliser ces plaidoyers? Composez le 081-890-4969 pour intervenir en direct dans cette émission coordonnée et réalisée par J.R. Lungembo, assisté de Jules Pesa. Sylvain Matundu est à la mise en onde et Pierrot et la Ménjou vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Ménjou.
Et pour en parler, nous recevons pour vous dans ce studio M. Vital Kamerhe, président du parti politique Union pour la Nation Congolaise, parti de l'opposition, qui était présent à ces forums organisés à Washington et qui avait pris la parole à la clôture du forum au nom de toutes les oppositions africaines présentes, si on pourrait les dire ainsi. Mais on aura aussi en direct de Matadi Ramazani Chadari, président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, qui était aussi du côté de la majorité dans ces forums. M. Vital Kamerhe, bonjour.
Bonjour, je salue Monsieur Ramazani, l'honorable député.
Qui sera avec nous d'un moment à l'autre. Vous avez été dans ces forums au nom de l'opposition plutôt. Pourrions-nous avoir en grande ligne qu'est-ce qui s'est dégagé dans les discussions qui ont eu lieu entre l'opposition, la majorité et la société civile, ce qui avait organisé le forum, disons, les Américains.
Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Effectivement, nous avons été à Washington. La première chose que nous avons dite à haute et intelligible voix, c'était de regretter que nous, Africains, nous attendions que les puissances extérieures nous convoquent pour nous dire ce que nous étions censés faire nous-mêmes chez nous. Il vous souviendra qu'à la suite des élections chaotiques du 28 novembre 2011, l'opposition politique avait proposé en date du 28 janvier 2011 un plan de sortie de crise pour dire nous devons tirer les conséquences de mauvaises élections pour que l'avenir ne ressemble pas au passé sombre. Mm-hmm. Nous avons dit donc au cours de ce forum que nous n'avons pas plusieurs revendications. Nous sommes venus ici pour dire que nous devons tous préserver et respecter la Constitution qui est la loi suprême de notre pays. Nous sommes venus ici pour dire que nous ne voulons pas des élections arrangées à l'avance. Et que si personne n'a perdu cela, et personne donc ne doit s'opposer à une telle démarche. Et nous avons donc fait une proposition concrète en disant, nous devons rester dans les instruments internationaux ratifiés par le président de la République lui-même et le Conseil de sécurité. Ça signifie l'accord d'Addis Abeba et la résolution 2098 qui prône le dialogue inclusif sous le bon office des représentants spéciaux et secrétaires des Nations Unies. Pourquoi dialoguer? Pas pour partager le pouvoir, dialoguer pour que nous puissions baliser le chemin pour les bonnes élections. Et nous disons, notre proposition est simple. Si nous adoptons un certain nombre de principes, qui sont des principes universellement acceptés par tout le monde, premier principe, si nous disons tous, est-ce que nous pouvons respecter la Constitution? Oui. Deuxième principe, est-ce qu'on peut terminer le cycle électoral commencé en 2011 en organisant les élections provincial, nous disons oui. Troisième principe, nous disons, est-ce que nous pouvons tous affirmer haut et fort que la police, l'armée, l'administration publique, les gouverneurs de province, la justice ne doivent pas interférer, y compris l'ANR, dans les processus électoraux? Nous disons oui. est-ce que nous sommes tous d'accord que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, doit être un organe technique et indépendant? Nous disons oui. Et nous avons aussi dit que nous devons tous ensemble, opposition comme majorité, parce qu'il n'y a pas des anges d'un côté, des diables de l'autre côté, créer un climat favorable pour que nous organisions les élections dans un climat d'apaisement. Mm-hmm. Et pour terminer, nous, l'opposition, nous avons dit, nous avons l'impression que nos amis de la majorité croient que l'alternance signifie écrasement. Croient que l'alternance signifie que l'opposition doit à tout prix prendre le pouvoir. Non. L'alternance signifie que notre constitution prévoit deux mandats pour chaque président de la République élu. Et qu'à l'issue de ces deux mandats, il ne lui est pas donné notre possibilité de se présenter. Et nous demandons donc à nos amis de la majorité de désigner leurs candidats, s'ils sont nombreux, messieurs, un seul, pour se mesurer aux candidats ou aux plusieurs candidats, et l'opposition fera un effort le moment venu pour avoir un candidat unique. Et à ce moment-là, nous disons, dans notre pays et dans notre continent, nous pensons que les chefs d'État se cramponnent au pouvoir parce qu'ils ont peur de représailles après. C'est comme ça que nous avons, au cours du conclave que nous avions organisé, la Confession de Fatima a adopté le principe d'élaborer un projet de loi pour statut d'ancien président de la République. Pas seulement pour le président en fonction maintenant, d'ancien président de la République. Mm-hmm.
Mais pour revenir, permettez que je puisse vous interrompre, vous avez présenté, toutes ces lignes ont été présentées, je crois bien, dans ce forum de Washington.
Absolument.
Mais quelle a été, si je peux dire, la lecture de la partie que vous avez invitée avant peut-être de voir comment les discussions se sont déroulées entre vous et la majorité? Mais d'abord, ceux qui vous avez invité, comment ont-ils réagi suite à toutes ces propositions?
Non seulement qu'ils ont apprécié cette proposition constructive de l'opposition, puisque pour la première fois, ils étaient heureux de voir une opposition africaine tendre non seulement la perche pour demander à nos amis qui veulent se cramponner au pouvoir qu'ils peuvent partir en tout apaisement en laissant au peuple congolais de décider seul pour son destin. Mais aussi, nous avons eu une rencontre au département d'État où la proposition a été qualifiée de constructive. Et donc, je ne pense pas que dans cette proposition, nous avons dit des choses qui énervent ni la Constitution, ni la personne du chef de l'État, ni de quelconque autre.
Voilà, mais pour revenir maintenant aux discussions entre vous, parce qu'il y avait la société civile, l'opposition, la majorité, est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir présenter cela en face aux interlocuteurs de la majorité, par exemple, discuter et dégager une piste de solution ou un chemin sur lequel vous pouvez évoluer ensemble?
Mais je suis content que vous me posiez cette question, puisque nous allons finalement éclairer la lanterne de l'opinion. Le premier à prendre la parole, c'était Lambert Mende pour le compte de la majorité présidentielle. Il a étalé les réalisations du président de la République. Il a parlé des 400 écoles construites sur l'ensemble des territoires nationaux. Je les ai cherchées, je ne les ai pas vues. Et encore, même si cela était vrai, les grands Congolais ne peuvent pas se battre la poitrine pour 400 écoles alors que Burundi, à côté, a construit 5000 écoles. Il a parlé des routes qu'on a construites partout. J'ai posé seulement la question de savoir, parce qu'il a dit qu'il y a la démocratie chez nous. La preuve est que l'opposition aujourd'hui a fait son meeting en Dili et personne n'a été inquiété et qu'il n'y avait que 400 personnes. Et j'ai repris la parole, on m'a donné la parole. J'ai dit d'abord balayer tous les arguments de M. Lambert Mende, je crois que les gens ont suivi, pour démontrer qu'il y a quelques embellis dans la capitale, il faut le dire, mais à Lodja, à Mweka, à Walungu, à Bassankoussou, il n'y a pas de route à l'intérieur du pays et l'accès aux soins de santé, c'est un problème.
Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, il y a aussi Ramazan Chabari qui doit placer Aimon. Est-ce que dans toutes ces discussions, je crois qu'il y a plusieurs personnes du côté de la majorité qui sont intervenues, à l'opposition, plusieurs personnes sont intervenues.
L'honorable Chab est intervenu, Chabari est intervenu, Martin Fayoul est intervenu,
Clément Dawakou est intervenu, je crois bien.
Et Clément Dawakou a donné un document par écrit.
Voilà. Donc, est-ce que de toutes ces interventions, vous avez dégagé une ligne sur laquelle vous étiez tous d'accord?
Nous étions tous d'accord, puisque Thomas Loak est intervenu, il a dit MLC, et il a adopté exactement la même ligne que nous. Pour Martin Fayoulou, ça ne faisait l'ombre d'aucun doute, parce que nous étions déjà concertés à l'avance. Il est resté dans les résolutions de Fatima, et il a dit que pour nous, l'opposition, et c'est mon point de vue, c'est le point de vue de tout le monde, qu'en 2016, le 19 décembre 2016, à minuit, il n'est pas question qu'on vienne nous dire qu'on va prolonger le mandat.
Et rapidement, je voudrais revenir encore sur ma question. Mais qu'est-ce qui a été dégagé ensemble entre vous et la majorité en émo pour qu'on écoute aussi la population, ce qu'elle pense de ce forum, de toutes vos discussions?
Et c'est rien et tout à la fois. Rien, pourquoi? Parce que au moment où nous discutions, puisque vous savez, c'est du choc des idées qui jaillit la lumière. Le ministre Lambert Mende a parlé, l'honorable Bouchab a parlé. Quand l'honorable Chabadali a pris la parole, il a dit non, nous ne sommes pas venus ici pour aboutir à un quelconque compromis ou des recommandations et des résolutions. Mais ce que je peux retenir de positif, c'est que, en plus du fait que nous nous ayons parlé ici à Kinshasa, grâce à M. Martin Kobler et des autres envoyés spéciaux pour la Grand Lac et le Grand Lac, nous nous sommes quand même rencontrés. Vous savez que même des ennemis, les pires ennemis, il y a le fameux syndrome de Stockholm. Si on vous enferme dans une salle pendant une année, vous finirez par vous parler, vous trouverez ce qui est bien pour le peuple congolais.
On retient d'abord le pas politique, c'est le fait déjà de se rencontrer, de discuter, c'est déjà un point
de vue. On a vu que nous ne sommes pas des diables.
Voilà, on va revenir à vous. Mathieu, vous êtes à Kalemie, Eddy et Salbumbashi, Maurice ici à Kinshasa. Comment la classe politique congolaise peut-elle capitaliser ses plaidoyers, cette rencontre de Washington, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct, mais aussi 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Mathieu, vous êtes à Kalemie au Katanga, bonjour.
Bonjour Pierrot Lamézini et bonjour à tous les auditeurs de Radio
Kapu. On vous écoute Mathieu, vous avez suivi l'introduction avec notre invité. Déjà, le fait que la majorité de l'opposition, la société civile, se retrouve autour d'une table, bien sûr, c'est à l'extérieur du pays et discute, c'est déjà un point de départ. Mais alors, comment on peut capitaliser cela pour que ça contribue vraiment au renforcement du processus démocratique dans notre pays?
Oui, merci pour cette question. D'abord, j'encourage cette initiative. Ce que nous devons faire pour enfiler avec ce qui se passe dans notre pays, il faudrait, à mon avis, qu'il y ait un dialogue franc entre la classe politique congolaise. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est une honte, c'est normalement nous-mêmes qui devons avoir un dialogue inclusif dans notre pays. Maintenant, c'est les États-Unis qui pensent là où nous, on devait penser. En tout cas, ça, c'est une honte pour notre pays. Pour ne pas revenir sur ça, mais je dis, bon, j'avais une petite question à poser à l'honorable Vital Kamerhe qui est avec nous. Mais je crois que la question de la révision constitutionnelle avait peut-être été évoquée là-bas. J'aimerais en savoir quelles sont les décisions en fait, qui ont été prises pour ce débat qui est autour de la révision constitutionnelle. Qu'est-ce qui a été... Et une autre petite question. Quelles sont les différentes mesures qui ont été prises enfin pour avoir de bonnes élections apaisées, crédibles en 2016?
Merci beaucoup Mathieu. Vous souhaitez que la classe politique doit discuter un dialogue franc, mais dommage que cela puisse se faire sous l'impulsion de l'extérieur. Mais vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a été décidé autour des discussions dans le débat concernant la révision constitutionnelle, mais aussi y a-t-il eu des mesures pour arriver à des bonnes élections crédibles et transparentes? Merci Mathieu. Les questions ont été notées. Eddy, vous êtes à Lubumbashi au Katanga, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierron.
Et d'abord, le fait que la classe politique se retrouve autour de la table pour discuter de problèmes de démocratisation dans notre pays, que pensez-vous d'abord de cette initiative?
Bon, l'initiative de cette ONG, bon, pour moi, elle est à saluer, bien que la rencontre se soit tenue à l'extérieur. Les deux camps n'ont fait que répondre positivement à l'invitation qui leur avait été adressée, mais ça aurait été mieux si cette ONG s'était déplacée jusqu'ici chez nous, et encore mieux si les deux camps s'étaient réunis au Congo autour d'un autre Congolais comme médiateur. Maintenant, pour revenir, j'ai religieusement suivi M. Kamerhe. Je reviens toujours avec ma question, celle que j'avais posée à M. Clément Kanko, qui n'avait pas de réponse parce qu'il avait dit que l'opposition est une guerre, il ne devait pas commenter les types de position des autres opposants. Comme je l'ai en face et il est au studio, j'ai cette occasion. Monsieur Kamerhe, juste avant ce sommet, nous avons suivi sur la radio RFI que vous avez adressé une lettre à M. Obama, comme quoi vous lui demandez de traduire en justice M. Kabila pour des crimes de guerre perpétrés au Bas-Congo. Alors, à vous entendre parler, vous parlez de climat d'entente, de climat apaisé, vous parlez de dialogue, mais avec une telle accusation. Pendant que Kabila, il reste encore 2 ans et 3 mois. J'ai bien compté, parce que c'est fin 2016 qui va quitter le pouvoir. 2 ans et 3 mois au pouvoir. Vous adressez une telle lettre. C'est pour le rassurer à quitter ou bien c'est pour le pousser à rester encore au pouvoir. Maintenant, quand je vois la classe politique congolaise, M. Pierrot, je vous dis la vérité, pour moi, nous avons là une classe politique qui ne s'entendra jamais. Il n'y aura pas d'entente entre la majorité et l'opposition. Parce que même sur des points qui ne nécessitent pas de discussion, on discute. Quand, par exemple, la majorité dit « je veux modifier le mode de scrutin des gouverneurs », au lieu que le gouverneur soit élu par les députés provinciaux, ils peuvent être élus par les élus locaux. C'est l'article 104, qui n'est pas véhiculé par l'article 220. Mais vous entendez l'opposition se lever dire « non, on ne doit pas toucher à la Constitution ». Avant, on disait « ne touche pas mon 220 ». Maintenant, on dit « ne touchez à aucun article, ne touchez pas à la Constitution ». Comme qui dirait que l'article 220 verrouille tous les articles de la Constitution.
Voilà, si on vous écoute...
C'est des choses d'interprétation.
Oui, et dites-moi, il y a beaucoup de gens qui sont sur les standards, et il y a beaucoup d'appels que nous sommes en train de recevoir, les débats, il est intéressant, mais je retiens pour ne pas peut-être oublier, permettre à l'invité de pouvoir noter, vous avez soutenu la rencontre, mais vous aurez souhaité que ça soit à Kinshasa par un médiateur congolais, mais vous avez posé une question à notre invité de savoir qui a cette lettre qui a été envoyée selon ce que vous avez dit au président Obama, demandant de traduire le président en exercice ici en RDC à la justice, pensez-vous que ça fait créer un climat apaisé pour lui permettre de pouvoir quitter le pouvoir en 2016 ou rester au pouvoir? Mais d'un côté, c'est un jugement. Vous avez pensé que vu la manière dont le débat se déroule entre la classe politique congolaise, il n'est pas possible qu'il y ait un point de vue commun entre l'opposition et la majorité. Merci beaucoup, Eddy Delubumbashi. Nous retournons ici à Kinshasa. Maurice, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour aussi à l'honorable président Vital Kamerhe.
Oui. Maurice, comment on peut capitaliser
aux auditeurs, des paroles aux auditeurs pour sa disponibilité qui nous a toujours offert ici à la radio à chaque fois que nous avons besoin de lui.
Merci Maurice. Mais alors, comment la classe politique congolaise peut-elle capitaliser ce genre de rencontres comme c'est la rencontre qui s'est tenue à Washington?
Oui, je voudrais commencer par dire ceci. Saluer d'abord l'initiative NDI, ça rentre dans la logique de celle du ministre sud-africain de la Défense qui a dit une fois qu'ils faisaient le babysitting ici au Congo. Et ça a été un peu certaines personnes ici, mais c'est la réalité. Lorsqu'il faut toujours, même pour respecter les textes, ce sont des étrangers, c'est les États-Unis d'Amérique qui doivent donner, qui doivent rappeler. Ce sont des diplomates qui doivent rappeler au président, aux autorités, de respecter même une décision de la Cour suprême de justice. Vous voyez, nous sommes dans quel état? Donc, c'est ce qu'on appelle, je crois, en relation internationale, le relais métropole. Lorsqu'il y a un déficit de l'organisation dans un état, il y a toujours les gens qui viennent à rescousse. Donc, peut-être que ces gens-là font, c'est ce qu'on appelle l'assistance... de l'État en péril. Donc ils viennent nous assister parce que l'État est en péril, un État qui ne veut pas respecter ses propres textes. Ça d'abord, c'est ce que je peux dire par rapport à cette initiative.
Mais il y a déjà la rencontre entre les différentes parties. Alors comment ces différentes parties qui représentent, bien sûr, la classe politique congolaise peuvent-ils capitaliser cela, Maurice?
Non, en fait, ici, c'est un problème de texte, comme je l'ai dit. Donc, ce qui fait tout ce que vous voyez là, tous ces périples diplomatiques, toutes ces organisations, ça vise une seule chose, c'est le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je crois le président Kamerhe est mieux placé pour nous en parler. Aujourd'hui, il n'y a pas autre chose. On ne parle même pas de la Constitution, on parle d'une sorte de quoi, de quelle souveraineté. Aujourd'hui, on parle du respect de l'accord cadre qui voudrait qu'un dialogue inclusif, sans inclusif, transparent, soit organisée et la réforme structurelle de toutes les institutions de l'État. C'est ça, en fait, c'est ça qu'on rappelle. Mais cet accord cadre a été ratifié par M. Kabila. Mais aujourd'hui, ça pose problème pour le respecter. C'est ça la grande difficulté qu'on a dans ce pays.
Voilà. Alors pour vous,
j'ai une deuxième préoccupation. Je voudrais poser une question directe.
Allez-y rapidement, oui.
Alors, je salue votre collaboration par rapport à une coalition avec l'IDPS. Mais je réalise qu'il y a, en fait, il y a sur le plan des perceptions même des choses, il y a une certaine un peu différence de vue. L'IDPS qui ne reconnaît pas l'élection de M. Kabila. Pendant que vous voulez que Kabila continue jusqu'en 2016, vous voyez pas, c'est avec l'IDPS, c'est vraiment,
Maurice, alors vous estimez, Maurice, qu'il y a des points de vue différents par rapport aux élections de 2016, hein, vous estimez qu'au fait qu'à l'IDPS, on ne puisse pas reconnaître cette élection, est-ce que ça peut permettre à l'opposition, aussi une frange représentée par M. Kamere, de pouvoir parler ensemble, cheminer ensemble dans ce processus? Merci beaucoup, Maurice. Nous allons écouter Franck avant de revenir dans ce studio pour permettre à notre invité de réagir. En attendant, je crois bien avec la réalisation, on peut avoir Emmanuel Ramazani Chavary qui intervient directement de Matadi. Dans cette émission, Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'honorable Kamere. Bonjour aussi à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Oui, vous avez suivi tous les compatriotes, les uns et les autres. Le fait déjà que l'opposition, la majorité, se retrouve pour discuter, même si c'est à l'extérieur, c'est déjà salué par plusieurs compatriotes, mais ils estiment qu'on doit avoir un dialogue franc. Est-ce que c'est possible d'arriver vraiment à harmoniser un point de vue, quelle que soit la prise de position des uns et des autres, pour permettre au processus démocratique de pouvoir cheminer comme il faut, Franck?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je vais parler en trois petits points. Au premier point, je serai bref, d'encourager l'initiative de cette ONG. C'est vraiment favorable à ce qu'ils vont tenter de faire. C'est vraiment bien pour le peuple congolais. Au deuxième point, c'est un conseil que nous formulons et aux membres de la majorité et à ceux de l'opposition. Nous devons parfois leur dire qu'ils doivent savoir dialoguer, savoir se dire certaines choses, même si ça peut blesser. Mais quand ils se disent des choses comme ça, il faut aussi qu'ils mettent d'abord les priorités de l'État, les intérêts de la nation au plus haut sommet. Qu'est-ce que nous constatons? Ils dialoguent, ils argumentent, mais dans la plupart des cas, ce sont des argumentations souvent polarisées, ce sont des argumentations parfois radicalisées, si bien que de part et d'autre, on pense prendre le peuple pour bouclier, alors que quand ils argumentent, c'est parfois derrière les intérêts du peuple. Et de trois, nous devons aussi encore leur dire, comme il y a un membre de l'opposition qui est au studio, il y a encore quelqu'un de la majorité qui va aussi intervenir, nous savons que gérer un État, ce n'est pas facile. Nous savons que diriger les hommes, c'est toujours difficile. Mais nous devons aussi leur dire qu'aucun pays de ce monde, aucun État de ce monde ne s'est déjà développé sans l'implication directe de ses citoyens. Donc, il nous faut pour cela vraiment une volonté politique manifeste et aussi un bon patriotisme de la part des citoyens. Et du côté de la volonté politique manifeste, nous devons dire qu'une volonté politique manifeste ne doit pas se confondre au clientélisme, au fanatisme ou bien au partage du pouvoir par un cercle d'amis. Et par patriotisme, nous ne voulons pas aussi non plus que les compatriotes confondent patriotisme avec égoïsme qui peut ouvrir une porte, soit au clanisme, au clientélisme, au régionalisme, ainsi de suite. Je crois que si on met les intérêts d'État au centre, si on développe encore un bon patriotisme de part et d'autre, ça pourra toujours aller. Parce que moi, parfois, ça nous gêne de voir que nos politiciens de la majorité ou de l'opposition, quand ils discutent, c'est seulement à base de querelles. Ils s'attaquent au lieu de voir les problèmes qui concernent la nation, les problèmes qui concernent tout le monde, non. Ils vont seulement voir leur poche, leur salaire, leurs petits avantages, leur maintenance. Donc, M. Thérault, moi, je dis que tant que le citoyen congolais ne va pas se débarrasser de son égoïsme, Donc, on n'aura jamais
de développer ce pays-là. Merci beaucoup, Franck. Le problème, c'est d'avoir un dialogue, des arguments, mais vous avez cette impression que quand il y a les discussions, que ce soit l'opposition, la majorité, c'est polarisé, c'est des fois des positions très radicales. Et là, vous, ce qui se dégage pour vous, c'est que les gens discutent pour leurs intérêts plutôt que pour les intérêts de la population, et vous souhaitez qu'on puisse cultiver ces patriotismes. Alors, ça peut amener au développement du pays. Merci beaucoup. Nous avons déjà en ligne de Matadi, honorable Chadari Ramazani, qui était dans ce forum pour le compte de la majorité, et qui va aussi tout à l'heure prendre la parole pour nous expliquer sa perception de ces discussions. Mais nous revenons tout à l'heure, nous allons revenir à notre invité avec qui nous sommes dans ce studio pour réagir aux questions qui ont été posées par les auditeurs. Je rappelle encore le numéro pour intervenir en direct, 081-890-4969.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kevin Couté sur Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Vital Caméré, vous avez suivi le premier groupe de nos auditeurs qui sont intervenus. Les débats, l'échange est vraiment intéressant. Tous saluent le fait que déjà l'opposition, la majorité discute, c'est déjà bon. Mais bon, ils regrettent le fait que ça soit tenu à l'extérieur. Mais il y a des questions directes. Il y a par exemple, monsieur, vous avez noté avec moi, qui dit qu'il y a eu des discussions à Washington autour, on a dégagé un point commun autour de la révision constitutionnelle, et qu'il y a eu des directives de recommandations par rapport aux élections. Il y a Eddy qui a demandé, mais au même moment que l'opposition veut un dialogue franc pour le processus démocratique, mais au même moment l'opposition menace, écrit une lettre à Obama pour traduire le président de la République en justice. Est-ce qu'avec ça, vous pensez que ça peut amener à l'amener à quitter ou à garder le pouvoir? Il y a aussi Maurice qui dit il n'y a pas une même vision entre le membre de l'opposition, par exemple, comme l'UDPS et l'UNC par rapport au 2011. Pensez-vous que dans tout ça, on peut arriver vraiment à dégager un point de vue commun qui puisse permettre de renforcer le processus démocratique?
Non, merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier Mathieu, Maurice et Franck à partir de Vienne. Je voudrais noter d'abord et les remercier parce qu'ils nous encouragent et tous ils sont d'accord, c'est le peuple qui parle à travers eux, qu'avec le dialogue on peut éviter de faire sombrer notre nation. Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux aussi quand ils disent que nous, politiciens congolais, nous devons nous regarder dans le miroir pour voir notre saleté, pour changer et dire que nous opérons des ruptures avec nos petits comportements, de chasser de petits postes et parler pour nous-mêmes et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. J'ai noté aussi que gérer n'est pas facile et on ne peut pas développer un pays sans implication du peuple. Donc nous devons, tel que Jésus-Christ, qui était à la fois celui qui indiquait la voie à suivre, mais il était derrière les brebis, pour être sûr que les bonnes et les mauvaises, toutes vont arriver à destination. Mmh. Pour répondre maintenant à vos questions de façon claire, à Washington, effectivement, la question de la révision constitutionnelle a été soulignée. J'ai noté, et c'est sous réserve, peut-être Chadari va être plus clair, puisque c'est lui qui parle pour le compte de la majorité, j'ai noté dans l'intervention de M. Lambert Mende que le président de la République n'a jamais dit qu'il va violer la Constitution. Mmh. Et j'ai noté encore que M. Lambert Mende a dit de toute façon, il y a eu des révisions en France, il y en a eu aux États-Unis, ce n'est pas une question tabou. J'ai noté dans l'intervention de M. Evariste Mouchard que réviser la Constitution, c'est respecter la Constitution. J'ai noté du côté de l'honorable Chadari que nous ne sommes pas venus ici à Washington pour recevoir des recommandations et des résolutions. Et donc, pour la révision constitutionnelle,
on n'a pas dégagé un point de vue commun.
On n'a pas dégagé un point de vue commun, mais des directives ont été données. Moi, je ne suis pas un chef d'État. Le chef d'État était en sommet, mais là où nous étions, ceux qui faisaient la modération ont noté que la Constitution est à la base de la stabilité même des institutions. Et donc, je voudrais dire, que pour nous de l'opposition, puisque c'est pour le compte de l'opposition que nous pouvons parler, que nous ne pouvons pas toucher à la Constitution, parce que tout simplement, comme j'ai suivi
Eddy, vous vous engagez dans le débat même quand il ne s'agit pas des articles verriers.
Et c'est pour résoudre quel problème? Parce que nous avons cette même constitution depuis 2006. Cette constitution est de 2005. C'était pour sceller un pacte républicain. Voilà déjà que depuis 2011, on change cette constitution pour passer de deux tours à un seul tour, au bénéfice d'un seul homme. Et nous avons les résultats, vous les connaissez, nous n'allons pas continuer à renouer les coutures dans la plaie. Maintenant, nous nous engageons vers d'autres échéances électorales.
Et c'est la question de Mathieu, effectivement, oui, pour savoir si on a dégagé aussi une piste pour des bonnes élections. C'est la question de Mathieu aussi.
La piste pour les bonnes élections que nous avons proposée est simple. Les élections municipales, locales et urbaines nécessitent 7200 circonscriptions électorales. Les élections provinciales, si on doit arrondir, c'est maximum 200 circonscriptions électorales. Mais au centre, M. Labbé Maluma l'avait dit qu'il n'a pas d'argent. Alors, entre les élections locales, avec 7200 circonscriptions électorales, et des conflits de groupements, puisque quand on a posé la question au ministre de l'Intérieur de nous donner la liste des groupements, il ne les maîtrise pas. Dans la feuille de route de M. Labbé Maluma, nous avons lu qu'il y avait plus de 800 groupements litigés. Et vous allez organiser ces élections-là comment? C'est pourquoi nous, l'opposition, nous avons dit, au lieu de freiner le processus électoral, puisque Labbé Maluma lui était déjà président de la CI en 2006. Il a fait 5 ans, et donc la mémoire lui revient seulement maintenant en 2013-2014 pour se souvenir qu'il faut organiser les élections locales. Voilà pourquoi nous avons proposé que nous puissions faire les élections provinciales avec chaque Congolais qui va élire son député provincial.
Vous avez proposé ça dans ces discussions de droit.
Voilà. Le faire autrement, c'est énerver l'article 220. Mmh. Dans la linéa de l'article 220, il est dit qu'aucune révision ne peut avoir pour effet de diminuer les droits des citoyens congolais.
Mais si nous devons permettre d'aller rapidement, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont la question de la lettre écrite, on veut amener le président en exercice à la CPI, mais au même moment, vous pensez pouvoir demander au même président de pouvoir quitter le pouvoir. Mais s'il y a déjà des menaces en amont, il n'y a pas, c'est garanti. Comment voudrez-vous que demain, le président soit libre de dire je quitte le pouvoir si déjà au niveau de l'opposition vous brandissez des menaces?
Je vous rappelle que l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé le 26 février 2013 à Addis Abeba. La résolution 2098 a été adoptée le 27 mars 2013 au Conseil de sécurité. Et pendant tout ce temps, et que nous savons par ailleurs que les deux instruments privilégient le dialogue, il y en a été fait du côté de la majorité pour qu'on aborde les questions qui fâchent. Vous n'allez pas demander à l'opposition de croiser les bras devant un véritable complot contre la République. Puisque quand on commence à dire que réviser la Constitution, c'est respecter la Constitution, et quand on dit on peut même changer tous les articles, nous n'allons pas croiser les bras. Donc je pense que tout peut se discuter entre les Congolais. Avant la City, les Congolais étaient sur le point de s'empoigner. Nous étions avec les Jean-Pierre Bemba, nous étions avec les Roubaix. C'était déjà armé. Voilà. Mais là, nous ne sommes pas, même pas armés. Comment nous ne sommes pas en mesure de mettre d'accord? Voilà. Il y a une question très importante que vous avez éludée.
Allez-y.
Le pouvoir a horreur du vide. Si la communauté internationale s'invite chez nous, c'est parce que c'est lui qui porte la casquette du leader sur le plan national qui avait été investi par la Cour suprême de justice, même si nous l'avons contesté, ne réunit pas les gens. Est-ce qu'on m'a convoqué, moi, Vital Kamerhe ou Étienne Tshisekedi, pour parler de problèmes du pays et voilà. Tirer les conséquences des mauvaises
décisions qu'on a refusées? Voilà, on va en venir.
Avec l'IDPS, il n'y a pas de divergence de vie. Ouais. Nous avons tourné la page du passé et voilà, nous menons un combat commun pour le changement et le vrai changement.
Voilà, on va revenir à vous, Delton, d'écouter Honorable Ramazani Chadari. Vous nous suivez dans cette émission. Nous revenons sur le forum de Washington, n'est-ce pas, l'opposition, la majorité de la société civile. Même là, vous avez suivi, les auditeurs saluent le fait déjà que la classe politique soit invitée à se mettre autour de la table pour discuter du processus démocratique, c'est déjà important. Mais bien sûr qu'il y a des divergences de points de vue. Mais pour vous qui étiez dans ce forum au nom de la majorité, avant peut-être de réagir à ce qui a été dit par les uns et les autres, y a-t-il eu des points positifs que vous avez retenus dans les échanges que vous avez eus avec l'opposition? Honorable Chalari, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Y a-t-il eu des points positifs que vous avez tirés de ces échanges que vous avez eus à Washington?
Oui, merci. Je vous ai pris des cours. Je salue le président Kamere, qui est le président honoraire de l'Assemblée nationale.
Merci.
Je suis dit, bon, je ne sais pas si je sors très bien. J'ai suivi le président, il a parlé de tout ce qui a été dit à Washington DC. Le point positif, c'est que nous avons eu un petit moment d'échange entre nous, entre les Congolais. Mais nous avons dit, en ce qui concerne la Constitution, et que la révision n'était pas une question tabou, comme le président vient de le signer, mais nous avons donné beaucoup d'observations à l'organisation de ce forum-là, et nous avons dit que, notamment, la représentation de l'opposition n'était pas tout à fait respectée, parce que nous, l'opposition ici à Okingo, nous les connaissons du DPS. Il y a eu un certain nombre de voix, nous reconnaissons l'INC aussi, le président Kamere, mais nous a amené des personnalités politiques congolaises qui ne représentent pas grand-chose. Donc c'est pourquoi nous avons présenté des réserves à ce forum-là. Mais pour le reste, nous avons dit que nous sommes ouverts à tout dialogue avec l'opposition, et quand les gens se parlent, ils trouvent une résolution commune et qui permet à l'État congolais d'avancer.
Mais vous avez dit que vous avez mis des réserves. Il y a beaucoup de bruit, je crois que oui, c'est sur le moto. Je crois il y a soit les classes de véhicules honorables là où vous êtes, il faut peut-être vous déplacer pour permettre à ce que oui, on vous écoute. Mais là, il y a des petits soucis de ligne avec vous. C'est par rapport au bruit de fond. Il y a, je crois bien, un véhicule à côté. Si vous êtes à côté de la route, vous pouvez vous déplacer un tout petit peu. Voilà, vous êtes en Matadi, il y a une circulation abondante, je crois bien là où vous êtes. Mais vous avez dit, au-delà du tout, au-delà du fait qu'il y a des réserves que vous avez émises sur certaines personnalités qui ont représenté l'opposition, mais s'il vous est demandé aujourd'hui de dire clairement à nos auditeurs. Oui. S'il vous est demandé aujourd'hui, il y a trop de bruit là, peut-être ça va être difficile de pouvoir bien communiquer. Voilà, la réalisation va voir comment arranger cela avec Emmanuel Ramazani Chadari qui est à Matadi, parce qu'il y a beaucoup de bruit, je crois bien, il est à côté de la route. On va voir avec la réalisation comment améliorer cela, on va revenir à lui. Mais du moins, il a dit, tout est ouvert pour discuter avec l'opposition, en dépit des autres personnalités sur lesquelles ils ont émis les réserves. Ça, c'était par rapport à Washington. On va revenir à lui, il est temps d'écouter Roger qui a déjà pris quelques minutes sur les antennes. Roger, vous êtes avec nous ici à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Radio Okapi, bonjour aussi à l'invité qui est Vital Kamerhe.
Vous avez suivi l'invité avec qui nous sommes au studio, vous avez aussi écouté Ramazani Chadari qui est avec nous au téléphone, qui a pensé que c'est possible de se mettre ensemble, opposition, majorité, discuter pour l'intérêt de la nation. Et la grande difficulté, comme a dit Franck, c'est qu'il trouve que c'est pas possible parce que chacun y va avec soit d'une façon radicale, soit avec des points de vue très polarisés, qu'on ne peut pas arriver à se mettre ensemble. Alors vous, en tant qu'observateur, population, s'il vous a été demandé de pouvoir conseiller à tous les deux camps, de pouvoir raisonner sur le processus démocratique et le faire et sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, majorité comme opposition, Roger.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que nous devons comprendre, la première des choses, nous devons avoir l'amour du pays. Nous comprenons parce que nous parvenons à définir la démocratie. Nous tous, nous connaissons ce que signifie la démocratie. D'abord, je félicite le président Kamere parce que c'est un homme dynamique qui est en train de lutter aussi contre toute chose impure qui se passe dans la RDC.
Merci.
Et les gens de l'opposition sont des personnes aussi appelées à lutter aussi contre tout ce qui se passe. Donc, nous devons comprendre que dès que nous avons d'abord l'amour de la nation, nous allons y parvenir à trouver une solution à tout ce que nous sommes en train de dire. Et la première des choses, c'est que nous devons comprendre, nous pouvons être à la table, trouver une solution, mais de quelle façon nous allons persévérer avec des paroles, avec des propositions que nous avons réalisées ensemble à la table. Donc on peut parler, mais ce qui est nécessaire, nous devons apprendre qu'on doit mettre en pratique ce que nous sommes dit. Et si nous parvenons à faire de telles choses, vous allez voir que la paix va régner dans la RDC et nous allons aller de l'avant. On va commencer aussi à nous compter comme d'autres pays que nous sommes en train de dire, la France, ainsi de suite. Il faut que nos chers compatriotes reviennent en savoir que s'il y a l'amour dans le pays, tout va aller de l'avant. Et en même temps, je voulais aussi profiter pour poser une petite question à l'invité qui est Vital Kamerhe. À ce qu'ils ont parvenu à faire à la table à Washington, j'aimerais aussi pour qu'ils puissent un peu nous dire, ils ont eu aussi la chance ou le temps de parler aussi à ce qui se passe dans le pays concernant l'insécurité du pays. Et si cela est le cas, de quelle façon nous pouvons aussi, nous en tant que peuple, être en mesure de comprendre qu'il y a la sécurité ou bien il y aura la sécurité?
Et là, c'est par rapport aux garanties. C'est ça, par rapport aux garanties. Vous voulez savoir si les débats se sont tournés tout simplement autour de la constitution, de la situation politique, ou bien les questions de sécurité ont été évoquées, et comment la population peut être impliquée dans cela. Merci beaucoup, Roger. Jean, vous êtes à Kirumba, au nord Kivu. Bonjour, Jean.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et vous avez suivi notre ami Roger de Kinshasa qui pense que pour réussir une discussion, un dialogue entre l'opposition et la majorité, le mot-clé, ça doit être l'amour de la patrie, et sans l'amour de la patrie, ça serait difficile que les uns et les autres puissent se discuter. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition?
Oui, c'est une belle proposition que les opposants et ainsi que les membres de la majorité soient rencontrés aux États-Unis. Mais j'aimerais poser une question à notre cher président Vital Kamerhe. Le point clair qu'il a pour finalement faire sortir le pays de ce qu'il appelle toujours crise, parce qu'il a appelé au véritable dialogue pendant un temps. Après, on a entendu parler d'une demande d'arrêter le président Joseph Kabila, ainsi de suite. Il fait beaucoup de propositions chaque jour. Quel est le véritable plan? C'était très clair qu'il a, cette fois-là, en 2016, qu'on y arrive, quand la population est bien fixée. Et pour qu'il y ait alternance à la République démocratique du Congo, j'aimerais savoir si nous, Congolais, nous devrions toujours faire appel aux Occidentaux, aux Américains, ainsi de suite, que de se diriger vers le peuple qui devra voter. Parce que celui qui lit l'histoire, celui qui voit ce qui se passe en Ouganda, ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe en Angola et dans d'autres pays africains, ne pouvait plus croire à ces Occidentaux et à ces Américains qui appuient le même régime qui sont dans ces pays-là. Et penser qu'en 2016, on peut changer les choses en République démocratique du Congo sans se diriger vers le peuple qui voudrait voter.
Merci beaucoup, Jean. Vous avez demandé à M. Vital Kamerhe de savoir, mais on revendique beaucoup de choses, on propose beaucoup de choses à l'opposition. D'une manière claire et nette, qu'est-ce qui est proposé pour arriver à mener à résoudre la crise au niveau du pays? On va revenir à lui. Je crois maintenant que ça s'est amélioré avec l'honorable Ramazani Chabari, que nous avons appelé de Matadi. Honorable, vous avez dit tout à l'heure que oui, vous avez souhaité, bien sûr, que c'est possible de discuter opposition majorité pour permettre au pays de pouvoir avancer, tout en retenant que vous avez mis des réserves à avoir à des personnalités qui étaient, d'autres personnalités de l'opposition qui étaient à Washington. Mais alors, pour revenir à ma question, c'était celle de savoir, pour vous, quels sont les points sur lesquels aujourd'hui, majorité, opposition, vous pouvez dégager des pistes, des solutions pour permettre à ce que les processus démocratiques puissent s'asseoir? Quels sont les points vraiment clés sur lesquels vous pouvez vous asseoir, discuter pour permettre à ce processus d'avancer?
Bon, les problèmes clés sont reconnus de tout le monde. C'est l'avenir de la démocratie en RDC. Et après avoir fait ensemble l'état des lieux de tout ce qui a été fait depuis l'avènement de Kabila jusqu'aujourd'hui, on peut discuter de ce qu'on peut faire demain. Donc, c'est faire d'abord la démocratie, le respect des principes fondamentaux, mais également, et nous devons calquer cette vision démocratique par rapport aux réalités socio-économiques et politiques de notre pays. Est-ce qu'il est encore souhaitable que nous puissions faire le mimétisme et considérer que les institutions politiques telles que vues par les Français, les Américains ou les Belges peuvent encore être récupérer et peuvent s'adapter en RDC? Ce sont des questions qu'on peut se poser. parce que vous savez, en France, il y a des routes. En France, il y a la compagnie nationale d'aviation à plus de 100, 200 avions. En France, il y a le chemin de fer. En France, il y a les Pyrénées. Ici, au Congo, nous avons les Virunga. Nous avons les fleuves, nous avons la forêt. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'un président peut apporter après son élection, après son mandat de 4 ans? Qu'est-ce qu'il peut encore apporter? Parce qu'il trouve tout. Aujourd'hui, Obama, il se bat pour la santé pour tous. Est-ce qu'on va parler encore de route? Il parle encore de logement dans un pays où il y a moins de 7% de chômeurs. Tout le monde a un emploi. Où les pauvres aux États-Unis, ils touchent 1800 dollars, ils sont comme pauvres. Alors, ce sont des questions. Est-ce que nous devons toujours, tout en étant ouvert, tout en étant ouvert sur la communauté internationale, tout en nous mettant au centre de tout ce qui se passe ailleurs, est-ce que nous devons nécessairement copier ce qui se passe là-bas sans tenir compte des réalités de notre pays? Voilà la Constitution, par exemple, on en parle, et bon, on a parlé de 40% rétrocession. Bon, pratiquement, on parle de péréquation. Est-ce que nous avons fait ça? On parle de 26 provinces. Pourquoi nous n'avons pas, pas fait ça? On parle des organes locaux qui doivent gérer les ETD. Est-ce que nous avons respecté ça? Donc, je crois qu'ensemble, au fil des jours, nous violons la Constitution. Est-ce qu'on les fait, avec bonne conscience, ou bien c'est dans l'inconscience? Et nous devons réfléchir. Et pourquoi la Constitution est toujours violée? Est-ce que c'est parce que nous manquons de moyens? Ou bien parce que nous avons tout simplement adopté des choses qui ne correspondent pas à la réalité congolaise? Cette Constitution a été, vous le savez, monsieur le journaliste, a été attaquée pour la première fois par la CENCO. Et la CENCO a dit, l'Assemblée nationale qui est élue, alors dirigée par le président Kamel, cette assemblée devrait avoir pour mission d'élaguer des coquilles contenant dans la Constitution. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'on en parle.
Oui, mais
nous, à la majorité, ce n'est pas une question
tabou. Voilà,
nous voulons voilà, des choses qui s'adaptent aux réalités de la RDC et non pas faire l'exportation des institutions occidentales dans un pays qui n'a pas les mêmes moyens que...
Voilà, monsieur Chabari, je crois bien, mais là, il se pose une question parce que, malheureusement, le temps nous bouscule. Mais quel est le cadre aujourd'hui qui puisse vous permettre de pouvoir discuter de plus ces questions-là? Elles sont importantes, comme vous les avez énumérées. Mais quel est le cadre aujourd'hui qui puisse vous permettre de discuter, que ce soit toute la classe politique d'une manière globale, de discuter de ces questions de fond que vous avez évoquées?
Mais le cadre, lorsque nous étions à Washington, il a été, l'opposition a avancé des arguments par la bouche évidemment du président Kamel, je ne parle pas de n'importe qui, qu'il fallait dialoguer et il faut trouver une formule souple pour que ce dialogue se passe dans la transparence, pour que ce dialogue soit un dialogue qui permet à tout le monde de donner son point de vue. Et comme ça, je pense que ça va marcher. Le dialogue, Mendes l'a répété lorsqu'il a fait le point de notre mission à Washington, et on a posé une question, et il a dit que la majorité restait toujours ouverte pour échanger avec nos partenaires à la gestion de ce pays.
Merci.
Dialogue, nous sommes très ouverts et nous voulons qu'il soit convoqué le plus tôt possible.
Voilà. Merci. Mais vous pensez qu'il peut être convoqué par qui? Quand vous dites qu'il soit convoqué, c'est par la communauté internationale, c'est par le Congolais même?
Bon, c'est une formule qu'on peut discuter. Nous avons convoqué les consultations nationales. Il y a des gens qui ont boudé. Vous-même, vous dites qu'il y a des gens qui demandent qu'on amène le président, n'est-ce pas, à la CPI, ainsi de suite. Bon, des personnes pareilles. Vous pensez que ces personnes sont capables de parler devant nous et on peut les écouter?
Voilà,
la convocation peut venir du chef de l'État,
c'est
lui qui a toute la légitimité, et il peut recevoir qui il veut et quand il veut. Et bon, le format officiel importe peu, mais l'essentiel est de savoir
ce
que pense l'autre pour que nous puissions avancer dans la paix, l'harmonie et la concorde nationale.
Merci beaucoup, Ramazan et Chabari, pour cette proposition. L'essentiel, quel que soit le format du dialogue, quel que soit celui qui le convoque, l'essentiel c'est de pouvoir discuter et dialoguer ensemble. On revient à vous, monsieur Vital Kaneri. Malheureusement, on est bousculé par les temps, on a suivi les uns les autres, le principe il faut discuter. Mais alors, il y a notre ami Jean de Kirumba, un peu, je vais vous demander d'être plus bref, qui dit: vous proposez beaucoup de choses à la fois, mais concrètement, en quelques lignes, quelles sont les grandes lignes que vous proposez pour lui permettre de comprendre? Comme ça, on sait discuté autour de points clairs, ils ont été énumérés par Ramazan Chabari. En attendant, on pourra écouter les derniers auditeurs qui s'attendent, mais vous prenez d'abord la parole.
Non, monsieur le journaliste, je ne peux pas laisser passer tout ce que l'honorable Chabari a dit sans dire un mot. Monsieur Chabari a dit de bonnes choses, mais il y a des choses graves qu'il a dites. Il dit la France a des routes, la Belgique a des routes, les États-Unis a des routes, mais il oublie qu'à l'indépendance, nous avions des routes. Nous n'avions fait que détruire ces routes-là. Il oublie qu'il a jeté à l'Assemblée nationale. On nous a présenté les contrats chinois où on devait nous construire 4200 km de routes, 2000 km de rails. On devait nous construire 150 écoles, 150 hôpitaux, 5 universités. Pourquoi on ne l'a pas fait? Est-ce que c'est la Constitution qui a empêché le gouvernement de faire les routes? J'ai dit non. La Constitution telle qu'elle est là, si on prend déjà de bonnes volontés, pour le placer à la tête du pays, les routes vont se construire.
Mais du moins, il est d'accord, il faut discuter.
Oui, il faut discuter. Il dit que les 40% n'ont pas été versés au gouverneur, les 26 provinces n'ont pas... Qui devait faire ça? Mais c'est eux qui disent qu'ils ont gagné les élections, c'est eux qui devaient respecter cela. Donc, il est en train de faire le mea culpa. Et je voudrais dire à mon frère Jean Kirumba, le plan est simple. La RDC, c'est une terre d'espoir pour l'humanité. Et nous avons d'abord... Le premier volet que nous devons privilégier, c'est la refondation de l'État. C'est notre maison commune, sans État, sans armée, sans justice, sans administration, sans police, il n'y a rien qui peut se faire. Nous disons, le deuxième volet ici, c'est le volet sécuritaire. Pour le volet sécuritaire, c'est très simple, nous avons les DDRRR, les Interahamwe, les FNL, les ADF Nalu. Il n'est pas question de les cajoler. On donne un ultimatum. On demande à ceux qui n'ont pas fait le génocide de rentrer chez eux, et ceux qui ont fait le génocide, on sait quel est leur sort.
Et c'est question peut être discutée dans ce
forum. Le troisième volet, c'est le volet diplomatique. Nous sommes des Africains, pourquoi nous devons vivre comme des ennemis éternels, comme si nous étions entendus pour ne jamais nous entendre? Nous devons discuter avec le Rwanda, l'Ouganda et tous nos neuf voisins. Le Congo, c'est le noyau intégrateur. C'est le Congo qui doit dire et qui doit rassurer les autres. Le dernier volet, c'est le volet économique. Les gens viennent prendre nos richesses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de police de frontières, parce qu'il n'y a pas de traçabilité, parce que nous avons des codes trop compliqués. Il faut qu'on puisse obtenir ce domaine-là. Et nous voulons dire que le dernier volet, il faut dialoguer entre nous. Je voudrais dire ici à haute et intelligible voix que la CENCO a rendu publique sa dernière communication. Et elle a dit, et je voudrais l'interpeller, que le jour où on va annoncer la révision constitutionnelle, elle va sensibiliser la population. Donc pour continuer, on n'a pas besoin de toucher à la constitution. Et pour nous, nous saluons les envoyés spéciaux, nous l'avons dit, et nous ne les traitons pas des simples agents ou fonctionnaires.
On va écouter les derniers auditeurs. Flori, vous êtes à Kinshasa. Vous avez suivi les uns les autres. On n'a qu'une minute, juste Flori, pour clore ces débats. Pour vous, qu'est-ce qui doit être capitalisé entre la majorité et l'opposition, au-delà de tout ce qui a été dit dans cet échange, Flori?
Merci beaucoup. Écoutez, avant, comme le temps est déjà passé, je voulais d'abord faire deux remarques à l'opposition avant de poser la question à monsieur.
Allez-y rapidement, vous n'avez que 30 secondes. Oui.
Voilà. Nous sommes tellement désolés de constater que la majorité a constaté à ce forum, puisqu'ils ont organisé ici à Kinshasa, dans notre pays, avec le budget du gouvernement de notre pays, la concertation nationale, qui n'ont pas encore résolu, même à 30%, les exigences et tout ce qui avait été dit dans ces concertations. Alors, c'est une honte de constater aujourd'hui qu'ils sont partis aussi, ils ont participé à ces forums de l'autre côté. Ma question maintenant à l'honorable Vital Kamerhe, que je salue en passant, est de savoir quelles sont les exigences encore de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore quand ils participent dans ces forums?
Merci beaucoup.
En attendant, ils sont partagés.
Merci. Ça respecte. Merci beaucoup, Flori. Dommage qu'on n'a pas pu vous permettre de terminer la phase, parce que là, on a été 30 secondes de M. Vital Kamerhe. On a suivi Ramazani Chabari qui a levé l'option, que le dialogue, la discussion est importante. Peu importe le format, et celui qui peut le convoquer. Vous avez suivi les uns et les autres.
Pas importe le format.
Bon, c'est qu'il a dit, et c'est lui qui peut le convoquer. On ne saura pas revenir avec lui.
La radio, il y a un climat international. Il y a l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a la résolution 2098. Et le point 14b est très clair, qui institue le dialogue et qui dit comment ça doit se faire. C'est sous le bon office du représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. L'opposition n'est pas partie prenante à un dialogue convoqué par la majorité présidentielle.
Mais c'est que si on demande en 10 secondes par rapport à l'émission, c'est que dire que dans cette prise de position, il sera difficile, comme l'a dit,
pas difficile
de pouvoir l'opposition.
Il ne sera pas difficile. Il est question tout simplement que nos amis de la majorité comprennent que le président de la République fait partie des problèmes et ne peut pas être juge et problème à la fois.
Merci. Nous retenons, d'après les auditeurs, d'après vous-même et Ramadani Sadari, que tout est ouvert pour une discussion entre l'opposition et la majorité, mais il faut se mettre ensemble d'accord sur les modalités et les contenus. C'est lui qui peut convoquer ces dialogues. Merci, Monsieur Vital Kamere, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les auditeurs. Vous avez été très nombreux à intervenir dans cette émission consacrée, bien sûr, au processus démocratique en RDC, la contribution de la majorité et de l'opposition. Vous allez retrouver cette émission ce soir à 20h30, heure de Kinshasa, en rediffusion, mais aussi sur www.radiocapi.net. Il me reste à remercier J.R. Longuembo qui a coordonné et réalisé cette émission, assisté de Julie César. Sylvain Matundu a assuré la mise en nom de Pierrot et la Miji. Vous la présentez sous la supervision de Ben Kabamba. Il me reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.